Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ces nouvelles du monde après presque 3 mois d'absence. C'était pas plus mal finalement d'être pas là, on a esquivé tout ce qui était dissolution de l'Assemblée, les JO, c'est fait. Donc on va pouvoir revenir sur notre petite... un truc un petit peu habituel malheureusement, hein, c'est le problème des infos, c'est que les années avancent et on s'y retrouve toujours un petit peu pareil. Donc il va y avoir un peu de catastrophe climatique, des politiques d'austérité et toujours des luttes écolo. La rentrée étudiante, on va en parler aussi avec des problèmes de logement du côté du campus de Paris-Saclay. On ira faire un petit tour voir où en sont aussi les opposants à l'A69 Toulouse-Castres. On commence ce petit tour du monde en Argentine où, avec le problème des lois sur les retraites, le président Javier Milei a marqué un point au Parlement, et ce malgré la pression de la rue. En Argentine, l'inflation est galopante. Il y a eu 94% de plus depuis le début de l'année, donc les prix ont doublé, et cela alors que les salaires stagnent, voire même baissent. Les pensions de retraite donc tournent environ autour de 200 euros en moyenne. Et par exemple... ça fait 277 000 pesos. Un retraité expliquait à RFI qu'il payait à peu près la moitié déjà pour avoir seulement un médicament. Donc c'est invivable pour les retraités. Le pouvoir, vous le savez, est maintenant dans les mains de Javier Milei, un ultra-libéral mais aussi autoritaire, sexiste, violent et vulgaire, qui veut imposer le marché, donc l'ultra-libéralisme, dans toutes les dimensions de la vie sociale. Il avait même évoqué, par exemple, la possibilité de vendre des organes. Depuis 6 mois, donc, il a lancé un plan d'austérité de choc pour l'Argentine, dévaluation de 50% de la monnaie, destruction des ministères, coupes budgétaires, suspension des travaux publics et réduction des subventions au transport et à l'énergie. Tout ça n'a pas sauvé le pays, bizarrement, contrairement au miracle annoncé, mais par contre, le taux de pauvreté est passé de 44% à 57%. Les salaires ont baissé environ de 21% en moyenne, avec, je vous le rappelle, une inflation quasiment de 100%, ce qui a aussi favorisé l'explosion du crime organisé. Et à côté de cela, des mesures ont été prises contre la liberté de manifester ou les droits des femmes. Si on en vient donc aux retraités, il y a quelques jours, le Sénat a voté une loi pour augmenter les retraites, hein, qui ont été durement frappées par cette inflation. Le texte du Sénat prévoyait ainsi une hausse d'environ 8% des pensions de retraite. Ben c'était déjà trop pour le gouvernement de Milei, qui a traité les sénateurs de dégénérés budgétaires et les a accusés de perturber la croissance. Il a donc utilisé, ils ont la possibilité là-bas, un veto pour bloquer sa mesure. C'est comme le 49-3, mais à l'envers. En gros, ça force, ça oblige à passer la loi. C'était donc ce mercredi 11 septembre que la discussion avait lieu au Parlement, au Sénat, et des dizaines de milliers de personnes s'étaient réunies devant le Congrès pour réclamer la levée de ce veto et exiger donc l'augmentation des retraites qui avait été prévue par les sénateurs. Des personnes de tous âges étaient rassemblées, notamment des seniors. Ils se retrouvaient face à face avec la police et des petites échauffourées ont eu lieu. Le régime avait déployé un double cordon de forces de l'ordre autour du bâtiment. Il s'attendait à une marée humaine. Bon, ça n'a pas eu lieu, mais quand même, des petits affrontements ont eu lieu. Quelques barrières renversées, des heurts donc ont eu lieu. Des groupes ont été plutôt réduits quand même, des groupes qui se sont affrontés. La police a ainsi fait usage de gaz lacrymogène et de balles en plastique. Finalement, la manifestation a été dispersée avec un bilan provisoire de 12 blessés. 3 arrestations pour rébellion. Mais c'est surtout la situation sociale du pays donc, qui inquiète, et c'est une nouvelle trace de ce qui se passe un an après son élection. Au mois d'avril, déjà, des centaines de milliers de personnes s'étaient mobilisées pour défendre l'université publique, ce qui avait amené le gouvernement à une marche arrière partielle sur le financement de l'université. Après 9 mois de gouvernement et donc sur fond de décélération de l'inflation, on est entre 4 et 5% mensuels depuis 4 mois. Milei conserve donc malgré tout dans les sondages une image positive. Il oscille autour des 50% et il avait été élu au mois de décembre dernier avec 55% des voix. On passe en Amérique centrale, en Équateur, où des coupures de courant sont régulièrement imposées par l'État. Et ça va être des coupures de courant de nuit qui vont être imposées maintenant, et ainsi qu'un télétravail pour le secteur public. Tout cela afin d'essayer de gérer au mieux les gros problèmes d'énergie. En effet, il y a des gros problèmes de production d'énergie en Équateur à cause des centrales hydroélectriques, ces barrages donc sur les rivières, qui sont affectés par la pire sécheresse qu'ait connue ce pays depuis des décennies. C'est aujourd'hui que le gouvernement a annoncé donc maintenant ça allait être des coupures nocturnes. Il y en avait déjà eu des ponctuelles un petit peu selon les besoins. Ces mesures entreront donc en vigueur à partir de ce jeudi. Et elles ont été prises, je vous le disais, pour faire face à la pire sécheresse qui a eu lieu depuis 61 ans, et ce, afin de gérer de façon responsable notre système électrique. C'est le communiqué de la présidence. La semaine prochaine, donc, le courant sera coupé dès 22h, et pour 8 heures de suite, du lundi au jeudi, dans tout le pays. Cela alors que la sécheresse a fait baisser donc, le niveau des réservoirs de plusieurs centrales hydroélectriques, et c'est la principale source d'énergie de ce pays. Les horaires de ces coupures ont été fixés dans le but de pénaliser le moins possible les activités de production et la journée de travail, a souligné la présidence. Le gouvernement va aussi imposer le télétravail dans le secteur public jeudi et vendredi cette semaine ainsi que la suivante. Et la coupure générale de courant, qui durera donc 8 heures à compter de 22 heures ce mercredi, elle avait déjà été annoncée afin de procéder à une maintenance préventive du système de transmission d'énergie. Tout cela va s'accompagner d'un couvre-feu par mesure de sécurité, dans ce pays d'Amérique du Sud en proie à la violence des gangs. C'est ce qu'annonçait la ministre de l'Intérieur, Monica Palencia. En raison de la sécheresse, l'Équateur avait déjà dû imposer un rationnement d'électricité, c'était en avril, 13 heures par jour. Le pays est donc confronté à un déficit énergétique d'environ 1000 MW, dont au moins 100 MW doivent être couverts par une barge de production d'énergie thermique que le gouvernement va louer. Voilà, une espèce d'énorme groupe électrogène qu'ils vont mettre au large des villes. Tout va bien. Sécheresse sur un côté du globe, inondation de l'autre, en Afrique de l'Ouest tout d'abord, Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre. Ce sont des précipitations exceptionnelles qui mettent la population en danger. De la Guinée au Tchad, des pluies torrentielles ont affecté depuis le début de l'année environ 4 millions de personnes selon l'UNICEF. 500 000 ont été déplacées et plus de 300 000 habitations détruites. Le Tchad fait d'ailleurs partie d'un des pays les plus touchés. Les inondations ravagent ce pays depuis la fin du mois de juillet. Selon le gouvernement tchadien, près de 1,5 million de personnes ont déjà été touchées. 145 personnes sont décédées et 70 000 maisons ont été submergées. Des dizaines de milliers d'animaux et d'hectares de champs ont également été engloutis, ce qui laisse donc craindre d'autres problèmes de famine. Le 10 septembre, le barrage de Alo, dans le nord du Nigeria, lui, il a cédé sous la violence des flots gonflés par les précipitations, des pluies anormalement abondantes. Une partie de la ville de Alo, qui abrite environ 1 million de personnes, s'est ainsi retrouvée sous l'eau. C'est pas de bol quand on s'appelle Alo. Et plusieurs milliers de maisons ont ainsi été détruites. Les inondations sont fréquentes dans cette région à la saison des pluies, qui dure entre juin et septembre. Mais on remarque une intensification de celle-ci sous l'effet du changement climatique. En 2022, par exemple, une année très meurtrière avec 3,48 millions de personnes qui ont été affectées et 630 000 hectares de terres cultivées inondées. Cette évolution confirme les scénarios climatiques établis pour cette région d'Afrique, expliquait un hydroclimatologue, Yves Tremblay, qui est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Il expliquait ça dans les colonnes du Monde. La hausse des températures moyennes au niveau du globe entraîne une humidité plus grande de l'atmosphère. C'est assez facile à imaginer, l'eau s'évapore. Et cela crée donc une plus forte probabilité de pluie anormalement abondante. Mais en soi, tout cela ne suffit pas à expliquer les inondations actuelles, a-t-il poursuivi. Il faut aussi prendre en compte l'état des sols. Or, dès le mois de juin, les précipitations étaient un peu supérieures à la normale. Les sols se sont donc retrouvés saturés avant que ne surviennent les pluies violentes de ces dernières semaines, ce qui facilite ainsi les phénomènes de crue. La dégradation des terres contribue également à accentuer, vous le savez, les phénomènes de ruissellement. Moins il y a de végétation dans le sol, et bien plus l'eau part en emportant la terre. On finit ce tour du climat avec bien évidemment la situation en Europe de l'Est, plus particulièrement, où on se noie sous les pluies de la tempête Boris. Au moins 11 morts, donc par noyade, plusieurs disparus, des villes submergées par les flots, des centaines de milliers de maisons privées d'électricité. Cette tempête, donc on a appelé Boris, s'abat depuis le 13 septembre sur l'Europe centrale et orientale. Elle sème le chaos sur son passage. En certains endroits, les stations météorologiques, par exemple en Autriche, ont pu enregistrer jusqu'à 350 mm de pluie, soit 4 fois plus que la moyenne des précipitations du mois de septembre, selon les services nationaux de météo. La Roumanie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie ont elles aussi souffert de précipitations exceptionnelles. À Stronieslaskie, on est dans le sud-ouest de la Pologne, une rivière en crue a ainsi fait là aussi céder un barrage, ce qui a projeté une vague monstrueuse sur la ville de Klotzko, une ville de 25 000 habitants. Vous avez peut-être vu ces images avec des voitures qui sont complètement retournées comme dans une machine à laver. Deux ponts ont aussi été emportés par les flots à Gluczolazi, on est à une soixantaine de kilomètres plus à l'est. Et enfin, entre la Pologne et la République tchèque, les trains, le trafic ferroviaire a, lui, complètement été suspendu. La région de Galati, qui est à l'est de la Roumanie, elle fait partie des plus sinistrées. 15 000 personnes auraient été directement affectées par ces pluies diluviennes. Le village de Slobozia Konachi a été quasiment englouti. 700 maisons inondées, d'après le maire. Les terres agricoles ont, elles aussi, été dévastées par la violence des flots. Aux sources donc de cette tempête qui devrait normalement s'arrêter à environ aujourd'hui, c'est une descente d'air froid, donc d'origine polaire. Cet air froid, quand il arrive à nos latitudes, hein, donc plutôt méditerranéennes, eh bien c'est une énorme masse d'air froid qui rencontre l'air chaud et humide en provenance de la mer Méditerranée et de la mer Noire, qui s'évapore, vous l'aurez compris, à cause du réchauffement climatique, et puis parce que c'est l'été aussi. Ces deux mers sont d'ailleurs en ce moment anormalement chaudes, hein. En certains endroits, la température de surface de la Méditerranée dépasse de plus de 7 degrés Celsius les moyennes saisonnières. Ça peut donc alimenter les tempêtes en eau évaporée, comme chez nous on appelle ça les épisodes Cévenol. La dépression donc est allée s'établir au-dessus de l'Europe centrale, où elle s'est retrouvée bloquée entre les anticyclones, ce qui l'a rendue encore plus dangereuse. La probabilité donc que cette coulée d'air très froid qui descend du nord à cette période de l'année rencontre l'air chaud des mers est assez faible, hein, ça n'arrive pas souvent, on est environ à une chance sur 100, expliquait un climatologue et directeur de recherche au CNRS Christophe Cassou. Mais en raison du changement climatique, la formation de cette rencontre est 5 fois moins probable aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Mais parce que donc il fait de plus en plus chaud. Donc normalement ça n'arrive moins souvent, mais en revanche, quand ça arrive, ça fait plus de dégâts. En effet, si cette goutte d'air froid se forme, le changement climatique en augmente l'impact, car la goutte froide, hein, c'est le nom qu'on donne à cet air froid, contient davantage d'eau qui est potentiellement qui va se transformer en pluie. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Normalement, il y a moins d'air froid qui descend sur l'Europe, mais quand celui-ci arrive, du fait notamment de l'humidité, ça crée les ravages qu'on peut voir en ce moment. Dans une étude d'attribution rapide qui a été publiée hier, les scientifiques du consortium Climat-Météor, c'est un consortium européen qui étudie les facteurs des événements météo extrêmes, eh bien ils estiment que le changement climatique a augmenté de 20% justement ces fortes pluies de la tempête Boris. Nous vivons en ce moment à la deuxième inondation du siècle en Europe de l'Est, et cela en l'espace seulement d'un seul été, donc deux fois les inondations du siècle le même été, puisque en juin dernier, les pluies d'une rare intensité avaient déjà ravagé l'Allemagne. C'est le climatologue David Efaranda, qui est co-auteur de cette étude, qui s'en alarme dans son communiqué. Mais, explique-t-il, il ne s'agit pas seulement de catastrophes naturelles isolées. Les recherches montrent que les précipitations extrêmes deviennent plus fréquentes et plus intenses en raison du changement climatique provoqué par l'homme. Voilà, cet article de reporter termine une fois de plus avec des vœux pieux. Hein, et rappelle qu'afin d'éviter la multiplication de ces catastrophes, nous devons de toute urgence cesser de brûler du charbon dans nos hauts fourneaux, du gaz dans nos maisons et de l'essence dans nos véhicules. C'est ce que rappelle le directeur de recherche du CNRS, ce que certains appellent l'écologie punitive. Mais quand on voit le déluge en face, bah, c'est ce que d'autres appellent la punition divine. Voilà. Il nous reste à choisir entre la peste et le choléra. En Allemagne, eh bien, on ne va pas parler de pluie cette fois-ci, mais de barrages qui continuent, eux, par contre, de se rétablir et de se monter. Ce sont des murs, puisque l'Allemagne a rétabli hier, et pour 6 mois, des contrôles à l'ensemble de ses frontières pour lutter contre l'immigration illégale, avec un risque d'effet domino sur le reste de l'Europe et de nouvelles tensions dans le reste de l'Union européenne. Des contrôles donc policiers mobiles ou stationnaires sont mis en place avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark. Ils viennent s'ajouter à ceux qui existaient déjà en place de l'autre côté, donc aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. Ainsi, par exemple, cet arrêt de tram qui délimite la frontière entre la France et l'Allemagne, entre Strasbourg et Kehl, donc les deux villes, eh bien, un arrêt de tram où de nombreux travailleurs frontaliers effectuent quotidiennement le trajet entre ces deux pays, ils sont reliés par le pont de l'Europe. Des contrôles avaient donc lieu ces derniers jours. En principe, de tels contrôles aux frontières intérieures sont interdites, puisqu'on est dans l'espace Schengen, où la libre circulation des biens et des personnes, c'est justement le nerf de la guerre. Mais donc en cas de menace pour l'ordre public ou la sécurité, qui ont été invoquées pour mettre en place ces contrôles, ils sont donc possibles, mais pour une durée seulement de 6 mois, avec prolongation ensuite, pour une durée totale qui n'excède pas 2 ans normalement dans les textes. La Commission européenne a d'ailleurs rappelé que des mesures de ce type doivent rester strictement exceptionnelles et elle a plaidé pour qu'elles soient proportionnées. Du côté du gouvernement allemand, à Berlin, on a invoqué la nécessaire protection de la sécurité intérieure contre les menaces actuelles du terrorisme islamiste et de la criminalité transfrontalière. Le contexte, vous le savez sûrement, c'est que ces dernières semaines, l'Allemagne a été touchée par une série d'attaques commises par des étrangers, dont la plus meurtrière, un attentat au couteau, commis par un Syrien et qui a été revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. C'était à Solingen, dans l'ouest de l'Allemagne, à la fin du mois d'août. Cette attaque a d'ailleurs fait 3 morts. Depuis, donc, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a durci son arsenal anti-immigration illégale, dans un contexte électoral compliqué pour lui, puisqu'il y a une forte poussée de l'extrême droite lors des 2 scrutins régionaux début septembre. Une 3e élection d'ailleurs prévue à la fin de la semaine dans le Brandebourg, la région frontalière de la Pologne, où l'extrême droite a fait des jolis scores. Pendant des années, l'Allemagne a mené une politique d'asile ouverte, en accueillant notamment plus d'1 million de réfugiés, essentiellement syriens, pendant ce qu'on a appelé la crise syrienne, donc en 2015-2016. Également plus d'1 million d'exilés ukrainiens depuis l'invasion du pays par la Russie. Sous la pression politique intérieure, donc Berlin fait désormais machine arrière. Et je vous parlais d'un effet domino attendu en Europe. Ça n'a pas attendu puisqu'en Autriche, le ministre de l'Intérieur a déjà prévenu que son pays n'accepterait pas les personnes refoulées d'Allemagne. Et la Grèce, qui se retrouve elle aussi en première ligne puisque aux frontières directes de l'espace Schengen, on a jugé que la réponse ne pouvait pas être la suppression unilatérale de Schengen et de renvoyer la balle aux pays qui ont des frontières avec l'extérieur de l'Europe. En Pologne, on a parlé là d'une mesure inacceptable. Voilà, ce sont des propos relatés sur la page de TV5 Monde.
Je fais what? Mais d'où ça sort, quoi? D'où ça sort?
C'est la rentrée pour les étudiants aussi, et dans les colonnes de Mediapart, on s'intéresse à la précarité, notamment au problème de logement. Mais là, carrément, c'est assez choquant, parce que c'est au campus Paris-Saclay qui est présenté comme un campus d'excellence. Faute de pouvoir leur proposer des habitations à des tarifs raisonnables, donc cette prestigieuse université de l'Île-de-France pousse les étudiants à se tourner vers l'hôtellerie à des prix, vous l'aurez compris, prohibitifs, ou alors à faire du Airbnb ou à trouver des hébergements d'urgence. On va commencer avec ces propos de Emmanuel Macron sur X le 15 août 2024. Paris-Saclay est magique. Jamais une université française n'avait été si bien classée dans le prestigieux classement de Shanghai, 12e au monde. C'était donc les mots du président de la République qui se félicitait du classement de Shanghai. C'était donc, je vous le disais, au mois d'août pour Paris-Saclay. Pourtant, donc, de nombreux étudiants de ce campus sont toujours aujourd'hui en attente d'une réponse du CROUS, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires, le CROUS de Versailles, qui est censé attribuer notamment des chambres étudiantes. Aucune solution de logement pour ces étudiants. La démarche se fait auprès d'un guichet unique du campus Paris-Saclay, qui s'occupe ensuite de répondre à toutes les demandes. Ce guichet unique ça va s'occuper des gens qui sont à la fac, mais aussi des IUT ou de très prestigieuses écoles comme Normal, l'École Normale Supérieure de Cachan, Centrale, Polytechnique. Un campus donc qui vise le haut du podium du classement de Shanghai. C'est un classement qui recense au niveau mondial les meilleurs établissements du supérieur pour tenter donc aussi d'attirer des élèves étrangers. L'article de Mediapart a recueilli le témoignage d'une jeune étudiante qui a préféré changer son prénom, on l'appellera donc Magali. Elle est boursière échelon 5, c'est l'échelon le plus élevé, c'est-à-dire que ses parents ont peu de revenus. Elle est donc normalement prioritaire pour obtenir une place par l'intermédiaire du CROUS. Et bien voici le message qu'elle et de nombreux autres camarades donc en attente ont reçu. Concernant les demandes de logement via le GUPS, elles sont en cours de traitement et ce jusqu'au 15 septembre. De ce fait, nous ne pouvons pas vous fournir de date précise quant à une acceptation ou un refus de notre part. Ce message donc préfère de ne pas trop entretenir d'espoir. Et il conseille, il est important de noter que peu de logements sont disponibles. Continuez donc à réaliser un maximum de recherches. Le texte est ensuite complété donc d'une liste qui renvoie vers des plateformes privées comme Roomlala, Locaviz, où les logements sont payés au prix fort et donc largement inaccessibles à des étudiants à moins d'être issus d'une famille très riche. Le GUPS renvoie aussi vers l'hôtellerie classique, des hôtels, ou des Airbnb, avec là où on a des tarifs de 70-80 euros la nuit, ce qui reviendrait à louer un studio à 2400 euros par mois. Et cerise sur le gâteau, le texte termine en disant « Enfin, si vous êtes dans une situation d'urgence, vous pouvez prendre contact avec l'abbaye de la Clarté-Dieu, c'est à Orsay, qui propose des solutions d'hébergement d'urgence temporaire et à bas coût. » Voilà l'esprit de la rentrée donc d'excellence sur le campus Paris-Saclay. Ils ont été contactés par les journalistes de Mediapart et le campus a expliqué que c'était la situation. Ils assumaient donc leur message. Ils précisent que la plateforme donc de l'université Paris-Saclay répertorie 12 000 logements, dont 6 000 dans le privé. Et explique cette étudiante, on nous a proposé des appartements à des coûts impossibles. On se demande vraiment si le campus a envie d'accueillir les étudiants pauvres. Comme beaucoup d'étudiantes, cette Magali a donc eu ses résultats sur Parcoursup très tardivement, au mois d'août. Et à cette date, c'est pratiquement impossible de trouver un logement. J'imagine que tous les parents de jeunes bacheliers compatiront et sauront de quoi il s'agit, puisque c'est des nouveautés aussi, des changements, des affectations qui ont eu lieu ces dernières années. C'est tous les mois d'août et de septembre, la panique pour aller essayer de trouver un logement à la dernière minute pour son jeune étudiant. Avant son année à l'étranger, elle, donc cette étudiante, une année à l'étranger qui est obligatoire dans son cursus, elle avait eu la chance de pouvoir tout d'abord trouver une chambre à louer dans une des résidences du campus. Cette résidence s'appelait la Pacaterie et elle avait défrayé la chronique à l'époque à cause de son insalubrité. Des cafards, des punaises de lit, des moisissures, ça a été révélé dans les médias et le CROUS s'était engagé, c'était l'an dernier, à faire des travaux de remise aux normes. D'ailleurs, dans un rapport récent sur le logement étudiant, la Fondation Jean Jaurès rappelle que moins de 2% des jeunes vivent en résidence universitaire. Les CROUS ne parviennent ainsi à loger que un quart des étudiants boursiers. Donc pas une solution qui a été conçue pour faire face à la réalité. Alors que la démocratisation des études supérieures visait à partager la connaissance au plus grand nombre et à limiter la reproduction des inégalités sociales, les jeunes interrogés dans les plus récentes enquêtes expriment leur sentiment de vivre moins bien que leurs parents, au point qu'il peut être permis aujourd'hui de parler de descenseur social au lieu et place de la fameuse expression « l'ascenseur social ». Ça, ce sont les mots du rapport. C'est donc la face sombre d'un campus d'excellence et de la magie du classement de Shanghai qui est ainsi révélée. Et l'article a été donc, je vous le disais, publié dans les colonnes de Mediapart aujourd'hui.
C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches.
Allez, on termine avec des nouvelles des écureuils qu'on a quittés pour notre part au mois de juin. Il s'est passé pas mal de choses cet été et la dernière habitante donc sur le tracé de cette autoroute 69 a quitté son domicile hier. C'était sur la commune de Verfeil après de longues négociations. Dans la foulée, de nombreux arbres ont été abattus sur sa propriété. Il était 13h hier lorsque Alexandra, donc la dernière habitante sur le tracé de l'autoroute A69, est sortie en larmes d'une petite pièce au rez-de-chaussée de sa maison à Verfeil en Haute-Garonne. Cette quadragénaire vivait ici depuis plus de 10 ans et elle a donc fini par accepter il y a quelques jours une offre de relogement de la part du concessionnaire NGE Atosca. Elle va donc quitter sa maison qui est donc en plein sur le tracé de la future autoroute censée relier Castres à Toulouse. La situation de cette habitante devenait d'ailleurs une épine dans le pied d'Atosca, qui souhaitait au plus vite poursuivre ses travaux. Vers 9h du matin, donc hier, plusieurs représentants du concessionnaire ainsi qu'un huissier de justice sont arrivés sur les lieux pour signer avec elle un accord qui a conclu son relogement en HLM avec son compagnon et son fils. Elle a quitté une petite villa avec jardin donc dans la campagne et le versement ensuite d'un dédommagement de 20 000 euros pour elle et sa famille. Une cinquantaine de gendarmes accompagnaient cette action, étaient présents pour assister à Tosca lors de la remise des clés, selon le colonel de gendarmerie présent. À leur arrivée, une dizaine d'opposants à la 69 étaient déjà, eux, sur le toit de la maison pour empêcher la destruction qui devait suivre son expulsion, donc, et une vingtaine de ces écureuils, les militants qui se perchent dans les arbres, étaient postés dans leurs cabanes construites dans les branches afin d'éviter l'abattage des arbres. Au sol, une cinquantaine de personnes étaient là en soutien, dispersées dans le jardin, enfin l'ancien jardin donc d'Alexandra. Peu de temps après la signature, d'ailleurs, une pelleteuse et plusieurs bûcherons sont pénétrés dans le verger, c'est le nom qui a été donné à cette zone par les opposants. Ils y ont coupé tous les arbres, frênes, noyers, chênes, tilleuls et autres essences non occupées par des militants dans ce jardin de 8000 m². Une matinée donc sous tension, durant toute la matinée, les représentants du concessionnaire ont négocié avec l'ancienne locatrice pour lui demander à elle de demander aux militants de descendre du toit, mais ce sans succès. Et d'ailleurs, elle expliquait, elle s'est retrouvée donc complètement piégée au milieu d'une situation terrible pour elle. Elle a fini en larmes en expliquant « Ils me disent que je ne pourrai pas signer l'accord si vous ne descendez pas ». Donc une forme de chantage opérée sur cette propriétaire déjà assez peinée de quitter son domicile. Alors que c'était, ainsi qu'ont expliqué les militants, ce sont eux qui ont décidé d'occuper la maison suite à la signature et qu'elle n'avait rien à voir là-dedans. Finalement, après l'intervention d'un lieutenant-colonel, celle qui accueillait bien sur son terrain des opposants à l'autoroute depuis le mois de mars 2023, a pu signer son accord et quitter sa propriété vers 13h. Elle s'est arrêtée pour parler aux médias en pleurs. « Il y a eu 2 tentatives de meurtre, dit-elle, ces dernières semaines chez moi. J'ai un enfant de 4 ans, il n'a pas à mourir pour cette putain d'autoroute. Voilà pourquoi j'ai accepté cet accord. » Les tentatives de meurtre, si vous souhaitez, vous pourrez aller lire des articles sur Reporter, hein, qui ont notamment pas mal relaté toutes les pressions de la part certainement de partisans de l'autoroute, peut-être même des personnes mandatées, en tout cas par le concessionnaire, mais évidemment ça ne se fait pas à visage découvert tout cela, en tout cas des grosses pressions physiques et même des mises en danger, on va en parler tout de suite. Peu de temps après, donc je vous le disais, l'expulsion, une pelleteuse et plusieurs bûcherons sont venus couper le jardin. Et cela arrive une semaine après l'expulsion violente de la ZAD par les forces de l'État et plusieurs jours de tension et de siège. Hein. Il restait un seul activiste encore perché dans un arbre sur ce qui était les ZAD. La préfecture a déclaré que les opérations de déboisement s'étaient pour sa part achevées, en notant qu'un seul opposant restait accrobranché dans un arbre, mais qu'il s'occuperait de l'arbre plus tard. C'était le 6 septembre dernier qu'a eu lieu cette expulsion très violente de la Calabre. Avec notamment, on a pu voir des vidéos de pelleteuses qui donnaient des coups dans les arbres sur lesquels étaient perchés des opposants dans leur cabane. Ce qui a d'ailleurs amené à des drames, puisque les gendarmes de la CNAMO sont intervenus de manière très musclée, la cellule nationale d'appui à la mobilité opérationnelle. Ils ont fait descendre 3 militants des arbres et 2 d'entre eux sont tombés durant l'intervention des forces de l'État. Donc tombés du haut d'un arbre, ils ont été légèrement blessés. Un autre avait, lui, chuté de 8 mètres et avait dû être hospitalisé. Voilà, ce sont des choses qu'on a pu lire. Donc, une autoroute qui continue d'avancer dans une tension assez incroyable.
Allez, rembolle tout ça, mais c'était écœurant à la fin.
C'est tout pour ces nouvelles du monde de la rentrée. Il a fallu évidemment faire des gros choix. On se retrouve jeudi pour un autre petit tour de l'actualité bouillante de ce mois de septembre. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, à très vite sur les ondes d'escapade.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.